Voici une question intéressante concernant le pardon. Devons-nous toujours pardonner à ceux qui nous offensent? La parole de Dieu va nous donner la réponse aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je suis convaincue que plusieurs de mes questions sont vos questions aujourd'hui. Les voici. Est-il nécessaire de passer par la nouvelle naissance pour avoir accès au royaume des cieux? Est-ce qu'il faut devenir comme les petits-enfants pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux? Que veut dire la Bible quand elle nous avertit de ne pas scandaliser? Est-ce que tous les enfants vont au ciel? Est-ce que Dieu désire que l'on règle tous les cas de péché dans l'Église? Pourquoi devons-nous nous pardonner réciproquement? Écoutons ce que le pasteur Régent Joly va nous enseigner aujourd'hui. Il a trouvé les réponses à toutes nos questions dans la Bible, dans la parole de Dieu. Demandons donc à Dieu qu'il nous aide à bien comprendre tout ce bon enseignement. Prions. Ô mon Dieu, on veut que tu nous enseignes. On veut pas recevoir toutes sortes d'enseignements, on veut recevoir le tien, ce que toi tu veux enseigner à nos cœurs, parce que c'est toi qui prends soin de nous, c'est toi qui nous dirige vers ton royaume. Enseigne-nous à faire ce qui te plaît à travers ta parole aujourd'hui. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Maintenant, dans le 18e chapitre de l'Évangile selon Matthieu, Jésus cite un enfant en exemple pour l'entrée dans le royaume des cieux. Il raconte la parabole de la brebis perdue et il donne des règles de marche chrétienne et de pardon pour son Église. Les prochains chapitres, même s'ils ne semblent pas faire progresser la ligne directrice de l'Évangile selon Matthieu, clarifient certains nouveaux éléments qui découlent du fait que le royaume des cieux ait été rejeté par la nation d'Israël. Ce chapitre aborde quelques questions qui ne furent pas répondues au chapitre 13 au sujet de l'état du royaume dans la nouvelle dispensation. Premièrement, nous voyons qu'il est nécessaire de passer par la nouvelle naissance pour entrer dans le royaume des cieux. Débutons notre lecture. Évangile selon Matthieu, chapitre 18, verset 1er. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Avez-vous décelé que les disciples manifestent une certaine ambition? Il se peut que les disciples aient eu une conversation au sujet de qui est le plus grand dans le royaume des cieux, et quelques-uns aient pensé que c'est peut-être eux. La réponse de Dieu est surprenante. Verset 2. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Il semble que l'enfant soit venu à Jésus-Christ sans aucune hésitation. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 10, verset 14, le Seigneur a déclaré « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas. » Le problème n'était pas d'attirer les enfants à Jésus, mais d'empêcher les adultes de repousser les enfants qui voulaient s'approcher du Seigneur. Nous avons une scène touchante ici. Le Seigneur prend un enfant et le place au milieu de ses disciples. Verset 3. Et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Ce verset a souvent été mal compris. Certains pensent que le Seigneur parle de retomber en enfance, mais il parle de conversion. Certains pensent qu'il faut développer un comportement juvénile pour entrer dans le royaume de Dieu, ou encore retomber en enfance d'une certaine façon. Je crains que bien des chrétiens se comportent en enfants gâtés. Mais le Seigneur ne parle pas de retourner en arrière dans notre enfance, mais de progresser vers une nouvelle vie. Ici, le Seigneur corrige la façon de penser des disciples en portant leur attention sur l'importance de l'entrée dans le royaume des cieux plutôt que sur celle d'avoir une situation ou un poste important dans leur royaume. Cette pensée est aussi révolutionnaire que les paroles dites par Jésus à Nicodème, que nous retrouvons dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Dans ce verset, l'accent est mis sur la nouvelle naissance. Vous devez devenir un petit enfant dans le sens que vous devez naître de nouveau. Lorsque vous naissez de nouveau, vous devenez un enfant spirituel. Malheureusement, de nombreuses personnes ne reconnaissent pas leur immaturité spirituelle. Lorsque J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, était pasteur, il a reçu de nombreuses demandes de soi-disant nouveaux convertis qui désiraient donner leur témoignage. Cela revient à la même chose que de demander qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Nous désirons tous un rôle important dans le royaume, une situation importante. Aujourd'hui, nous mettons trop l'accent sur l'activité, les méthodes et l'implication de tous. Je n'ai pas d'objection à cela, mais nous avons trop de chefs et pas assez d'indiens dans nos églises. Le Seigneur dit que si nous sommes convertis, de considérer notre âge spirituel. Il faut devenir un petit enfant. Est-ce qu'un petit enfant doit donner un témoignage immédiatement? Est-ce qu'un petit enfant doit avoir un poste de direction dans l'Église? L'apôtre Paul a dit que non. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. 1 Timothée chapitre 3 verset 6. Pour ceux qui aspirent à une charge d'évêque, à ceux qui veulent enseigner dans l'Église. En parlant de l'évêque, précisons ce que dit les Saintes Écritures. 1 Timothée, chapitre 3, les versets 2 à 4. « Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. » Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Voilà ce que dit la Bible au sujet de ceux qui aspirent à une charge ou à un service d'évêque dans l'Église. Revenons à notre texte. Matthieu, chapitre 18, verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Lorsque vous mettez l'accent sur l'entrée dans le royaume, la nouvelle naissance, vous notez que celui qui s'humilie comme un petit enfant est le plus grand dans le royaume. Versets 5 et 6. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Le mot scandaliser veut dire faire tomber, c'est-à-dire entraîner dans le péché. Jésus nous avertit à ce sujet avec un langage très fort. De plus, il me semble que Jésus fait de l'évangélisation des enfants une mission très importante. Il fait de la conversion des enfants une priorité. Je loue tous ceux qui travaillent auprès des enfants de nos jours. C'est un ministère tellement important. Il y a de nombreuses années, le pasteur d'une congrégation écossaise remit sa démission et le conseil de l'Église lui demanda pourquoi il démissionnait. « Bien, répondit-il, au cours de la dernière année, je n'ai eu qu'une conversion, le petit Bobby Moffat. Sauf que le petit Moffat devint le précurseur d'une grande œuvre missionnaire en Afrique. Il a ouvert l'Afrique au travail missionnaire. Ce fut l'année la plus productive du prédicateur écossais. Dans ces versets, le Seigneur met l'accent sur les enfants. et leur conversion. Versets 7 et 8. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Pouvez-vous penser à un avertissement plus sévère? Versets 9 et 10. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Le Seigneur interdit de mépriser un petit enfant. Lorsqu'un enfant meurt, son esprit va immédiatement au ciel en présence de Dieu. Tous les enfants vont au ciel, mes amis. Si vous avez perdu un petit enfant, ce que je dis sera une consolation pour vous. Ils vont au ciel, non pas parce qu'ils sont innocents ou parce qu'ils sont vos enfants, mais parce que Jésus est mort pour eux. C'est de cela que Jésus parle ici. Ne les scandalisez pas, ne les méprisez pas, laissez-les venir à moi. Même s'ils décèdent, leur esprit va directement en présence de mon Père céleste. Beaucoup de parents se questionnent au sujet de l'état éternel de leur enfant. Le roi David savait ce qui en était de son enfant. Lorsque le fils de Bathsheba est tombé malade, il a beaucoup prié pour l'enfant. Vous pourrez lire cette histoire dans le livre de 2 Samuel, chapitre 12, versets 15 à 23. Il a jeûné et imploré l'Éternel toute la nuit. Mais lorsque l'enfant est décédé, il s'est levé, s'est lavé et il s'est changé pour aller adorer dans la maison de l'Éternel. Ses serviteurs, qui avaient craint de lui annoncer la mort de l'enfant, furent étonnés de son comportement. C'est ainsi qu'il l'a expliqué. « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, « Qui sait si l'Éternel n'aurait pas pitié de moi, et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » 2 Samuel, chapitre 12, versets 22 et 23. David savait qu'un jour, il serait de nouveau avec l'enfant. C'est une vérité précieuse. Plusieurs parents ont perdu un enfant. Pour ces gens, ces vérités sont une consolation. Le sentiment du Seigneur au sujet des enfants revêt toute son importance aujourd'hui, alors que l'on commet tant de crimes contre les enfants. Combien d'enfants sont agressés et molestés pour le plaisir de pédophiles qui collectent les photos obtenues par Internet? Il arrive que des parents abandonnent leurs enfants. Il y a un enfer pour de telles personnes, si elles ne viennent pas à Christ, afin qu'ils remplacent leur cœur de pierre par un cœur de chair. Citation d'Exode, chapitre 36, verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Si tel est ton cas, face à l'Évangile, il y a de l'espoir. Maintenant, le Seigneur nous raconte la parabole de la brebis perdue. Verset 11. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Cette parabole est différente de celle retrouvée au chapitre 15 de l'Évangile selon Luc. Dans Luc, l'accent est mis sur « retrouver la brebis perdue ». Dans Matthieu, sur « le sauvetage de la brebis ». Versets 12 et 13. « Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. » Notez la conclusion de la parabole. Jésus pense encore aux petits-enfants. Verset 14. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Jésus va veiller sur les enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de raison. Mais vous, les parents, votre devoir, c'est de les conduire à Christ. Je crains que notre système scolaire utilise souvent les enfants comme cobayes pour éprouver leur philosophie humaniste. Nos enfants paient le prix de tout cela. Mes amis, nous avons une grande responsabilité devant Dieu. Poursuivons notre lecture, verset 15. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Si ton frère pèche contre toi, tu dois aller vers lui. Ce verset parle d'un péché commis par un croyant. C'est au frère lésé ou victime du péché qui doit aller vers le pécheur, et non le contraire. Toi, tu as le pouvoir d'aller vers lui et de régler ce différend qui existe entre toi et lui. Versets 16 et 17. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Il y a des gens qui aiment faire comme si rien n'était lorsqu'un frère pêche. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande de faire. S'il y a un problème entre deux frères dans la foi, cela devrait se régler amicalement, paisiblement et avec douceur. Si les individus ne peuvent pas régler leurs problèmes, qu'ils aient ça en présence d'un petit groupe. Si cela ne fonctionne pas, alors il ne reste qu'à apporter le problème devant l'Église, qui est l'autorité finale. Le Seigneur dit ceci en guise de conclusion. Écoutons-le, verset 18. « Je vous le dis en vérité. » Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Nous avons déjà traité ce sujet au chapitre 16. Nous délions en présentant la parole, nous lions en retenant la parole de Dieu. Versets 19 et 20. Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ce verset ne nous donne pas une carte blanche pour demander n'importe quoi que nous désirons. Il nous promet que des choses conformes à la volonté de Dieu, c'est-à-dire que Christ demanderait lui-même. Le verset 20 est le nouveau fondement de l'Église visible, des assemblées locales. Verset 21. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Pierre se croyait très spirituel en proposant de pardonner 7 fois. En effet, les rabbins recommandaient 2 ou 3 fois. Verset 22. Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. » mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ce nombre est très élevé, chers amis. Le Seigneur appelle les frères à se pardonner entre eux. Versets 23-27. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en emmena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Le Seigneur utilise un brin d'exagération. De nos jours, ce montant correspond à une dette de quelques millions de dollars. Verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Ici, nous parlons de tout au plus une 20aine de dollars. Poursuivons notre lecture. Matthieu chapitre 18, versets 29 à 35. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur, et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Cette parabole illustre le principe du pardon. Nous devons nous pardonner réciproquement parce que Jésus-Christ nous a pardonnés. C'est ce que nous lisons dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Si Dieu nous pardonnait, comme nous pardonnons aux autres, beaucoup d'entre nous ne seraient jamais pardonnés. Mais, parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, celui-ci s'attend à ce que nous pardonnions comme il nous a pardonnés. C'est un principe de vie chrétienne. Tout véritable chrétien a le devoir et le pouvoir de le faire. Rappelons-nous les paroles du Seigneur Jésus, celles que nous retrouvons dans le Notre Père, cette prière citée en exemple par le Maître, que nous retrouvons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 12, et je cite, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et l'enseignement du Maître, suivant cette prière, dans le même contexte, Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Chers amis, reflétons devant les hommes ce que nous sommes devenus devant Dieu. Des pécheurs pardonnés. Si du moins vous avez accepté le pardon de Dieu. La seule façon de recevoir le pardon de Dieu pour nos offenses est d'accepter Christ comme Sauveur et Seigneur de notre existence. Et par le fait même, vous aurez le pouvoir de pardonner à ceux qui vous ont offensés. Ne restons pas rancuniers envers nos offenseurs, mais libérons-nous réciproquement comme Christ nous le demande. Chers amis, préparons-nous à la prochaine émission, en lisant et en méditant notre prochain texte, que nous retrouverons dans Matthieu chapitre 19, versets 1 à 15.
Merci, Régent. Oui, le Seigneur nous appelle à nous pardonner réciproquement. J'aime beaucoup ce verset que Régent nous a cité dans l'Épître de Paul aux Éphésiens. Il dit, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Dieu nous a pardonnés en Christ. On était ses ennemis, car tous ont péché, dit la parole. Et Jésus est venu sur cette terre dans le but de nous pardonner. Il a pris un corps d'humiliation comme le nôtre. Il s'est fait homme, lui qui est Dieu, dans le but de venir nous pardonner. Il s'est livré aux mains des pécheurs. Il a souffert atrocement. Il s'est laissé clouer sur une croix pour payer la dette de nos péchés. Quel sauveur merveilleux! quel exemple de miséricorde, de pardon! Vous vous rappelez sûrement de la prière sacerdotale, du Notre Père. Jésus nous a enseigné à prier et à pardonner. Il nous a enseigné à dire à notre Père du ciel, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Puis après avoir terminé la prière, Jésus a dit à ses disciples dans l'Évangile de Matthieu, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » C'est sérieux. Je loue Dieu. Je suis membre d'une église où on est fortement encouragé à nous pardonner réciproquement. Et c'est une chose qui se fait de plus en plus naturellement parmi nous. Et c'est merveilleux, on goûte vraiment à la présence de Dieu à travers ça, à travers nos frères et sœurs, parce qu'on se pardonne mutuellement. Je pense qu'il nous arrive tous d'offenser quelqu'un, soit un membre de notre famille, un ami, un collègue de travail, un compagnon de classe. Pour ma part, quand ça m'arrive, je demande premièrement pardon à Dieu. Mais je sais que je dois aussi faire restitution à la personne que j'ai offensée. Puis avant d'aller vers cette personne, je me sens vraiment mal à l'aise. Il me vient à la pensée des choses comme « qu'est-ce qu'il ou elle va penser de moi? Va-t-il vouloir me pardonner? » Mais la plupart du temps, la personne me pardonne avec empressement. Et en plus, on devient souvent de meilleurs amis par la suite. Dieu est bon. Il est gracieux. Puis il est content quand il voit qu'on se pardonne mutuellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a offensé dernièrement? Ou même il y a longtemps? Je t'encourage à lui pardonner son offense. Même si tu n'as pas demandé pardon, tu peux toujours aller vers lui. Il n'est pas trop tard en ce moment et tu vas te sentir bien après. Peut-être que cette personne va devenir ton meilleur ami, ta meilleure amie. Dernièrement, j'ai réalisé une offense que j'avais faite à quelqu'un il y a longtemps, même avant de connaître Dieu. Et je l'ai appelé cette semaine pour lui demander pardon. Et puis, quelle joie! J'ai retrouvé un vieil ami. On s'est parlé après ça comme si il n'y avait pas eu de temps, il n'y avait pas eu de coupure entre le moment où je l'avais offensé et aujourd'hui. Ça a valu la peine de lui demander pardon. Il m'a pardonné avec empressement, puis on a pu jaser, parler. C'est un musicien, on a parlé de musique et on s'est réjouis ensemble. Alors, pardonnons aux gens, comme Dieu nous a pardonné. Il nous a pardonné pleinement, alors pardonnons pleinement nous aussi.
Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous! Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-LESPOIR, 1-877-LESPOIR, ou via notre site Internet www.radioespoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H6H4. Ici Régent Joly, bonne fin de semaine et à lundi!
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.